pour la dinitude, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Donc, de jure, elle est abolie, mais de facto, elle perdure, donc, à des degrés divers selon les pays. Ah oui, je voulais évidemment vous parler de l'exception que constitue le Liban. Le Liban est un membre de la Ligue arabe. Il y a 22 États dans la Ligue arabe, dont le Liban. Alors, le Liban n'a aucune religion d'État. Aujourd'hui, les musulmans sont pourtant majoritaires. Mais au Liban, la Constitution reconnaît l'existence de 18 communautés confessionnelles. Des communautés chrétiennes, de tout rite, et des communautés musulmanes, et aussi la communauté juive. Bien que la communauté juive aujourd'hui soit réduite à quelques dizaines de personnes, peut-être, puisque les juifs ont quitté le Liban en 1948, cette communauté reste reconnue par la Constitution. C'est vous dire quand même que c'est intéressant hein, de voir ça. Et d'ailleurs, même il y a 2 ans, on a restauré la synagogue historique du centre de Beyrouth, et il y a eu une grande cérémonie avec la participation d'un ministre. Voyez. Et donc vraiment un régime, un système, le système libanais, qui permet à tous les citoyens de ce pays, quelle que soit leur appartenance confessionnelle, d'être reconnus. Chaque communauté a son propre statut personnel, si bien que la charia ne s'impose qu'aux musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont leurs tribunaux ecclésiastiques ou religieux, vous voyez. Donc le droit personnel, c'est-à-dire le mariage, la filiation et l'héritage, tout ce qui relève de ce droit-là, dépend des autorités religieuses. Musulmanes pour les musulmans, chrétiennes pour les chrétiens, et avant il y avait donc aussi la même chose pour les juifs. Donc ça protège la liberté des chrétiens, et ce système-là, et ça leur permet d'être aussi complètement intégrés dans la conduite des affaires publiques et dans la société. Et c'est pour maintenir ce système où il n'y a pas de dimitude, donc, que la constitution libanaise fait que le chef de l'État, le président de la République, doit toujours être un chrétien maronite. Alors, un chrétien maronite, on pourrait dire pourquoi un chrétien maronite, pourquoi pas un chaldéen ou un copte. C'est simplement parce que les maronites, qui sont catholiques, mais de rite oriental, les maronites sont la communauté chrétienne la plus importante au sein de la chrétienté libanaise, et qu'ils ont joué un rôle de premier plan dans l'émergence du Liban moderne. Ce sont eux qui se sont battus, avec l'appui de la France d'ailleurs, pour obtenir un pays indépendant, et dont on a voulu leur reconnaître ce mérite, et voilà pourquoi c'est eux qui détiennent le poste du président de la République. Mais les autres communautés sont également associées au pouvoir, de par la Constitution. Il y a une répartition qui est fixe, c'est vrai. Ça peut paraître injuste avec nos yeux laïcs, mais il faut comprendre que c'est la seule manière d'assurer la participation des chrétiens à tous les secteurs de la vie de l'État. Alors donc, le Premier ministre est toujours un musulman sunnite, et le chef, le président de la Chambre des députés, est un musulman chiite. Et ainsi de suite, dans la haute administration, dans la basse administration, tout est confessionalisé. On n'est pas dans la laïcité, c'est vrai, mais c'est le moindre mal, si vous voulez. Et imposer la laïcité au Liban, ça serait très dangereux, parce que, d'abord, le concept n'existe pas, et ça donnerait aux musulmans le pouvoir au nom de la majorité, bien sûr. Justement, un mot à ce sujet. Avec le printemps arabe, on a dit, c'est merveilleux, c'est la démocratie qui va s'installer. Alors, quelqu'un voulait que j'en parle, alors je dis quelques mots. C'est vrai que les révolutions n'ont pas été conduites au nom de l'islam. Les révolutionnaires qui ont voulu faire dégager, comme ils disaient, les régimes en place, notamment en Tunisie et en Égypte, ne se sont pas référés à l'islam. Pour eux, c'était les valeurs universelles, la liberté, la dignité de l'homme, notamment, le pluralisme, etc. Alors, maintenant, vous avez vu que très vite, les partis islamistes se sont embrayés dans ces révolutions, d'où le résultat probable en Égypte et le résultat qu'on vient d'avoir aussi en Tunisie, où les islamistes ont gagné les élections il y a quelques jours. Mais ce n'est pas au nom de l'islam que ces jeunes ont fait les révolutions. Alors, nous, on s'est réjouis de la perspective des démocraties. Seulement, la démocratie, il y a deux aspects. Il y a le système démocratique qui permet le pluralisme d'expression, ben ça on est d'accord, bien entendu, mais il y a aussi la mécanique démocratique. La mécanique démocratique, c'est la victoire de la majorité et la défaite de la minorité. Et c'est la majorité qui prend le pouvoir. Or là, il y a des mécaniques démocratiques qui se mettent en place, et dans le contexte actuel, eh bien, ça favorise les mouvements islamistes. Vous voyez comme quoi il faut être beaucoup plus nuancé et mesuré, au lieu de s'emballer comme ça, il faut tenir compte des réalités. Moi, je crois que ce qui se passe avec les révolutions arabes, ça va prendre beaucoup de temps. Il va y avoir des moments très très douloureux, certainement. Peut-être un jour, ça aboutira à quelque chose de plus acceptable selon nos critères à nous, de droits de l'homme, etc. Mais pour l'instant, l'avenir est assez sombre. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens en Orient disent « Vous nous parlez d'un printemps arabe, nous, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons arriver l'hiver arabe. » Il faut comprendre ça. Hein. Voilà. Je termine la dimitude, hein, c'est un peu long, excusez-moi. La dimitude, donc, a des dispositions dans le culte, je vous l'ai dit, des discriminations. Je voulais en profiter pour dire un mot sur la liberté religieuse. Dans le Coran, il y a un verset qui dit « pas de contraintes en religion ». C'est la sourate 2, verset 256, oui. Alors, pas de contraintes en religion, ben c'est très bien. On se dit, ben, c'est le fondement, normalement, à partir de là, il devrait y avoir la liberté religieuse globale, je veux dire, liberté de culte, et aussi liberté de conscience. Autrement dit, il devrait être possible à des musulmans de quitter l'islam. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Vous allez voir, il y a un verset coranique qui est censé, selon les commentateurs autorisés de l'islam, ce verset-là est censé avoir abrogé, voilà, on retrouve la question de l'abrogation, il est censé avoir abrogé le pas de contrainte en religion. Là, c'est la sourate 9, verset 5. On l'appelle le verset du sabre et vous comprendrez. Après que les mois sacrés se seront écoulés, vous vous rappelez, hier je vous ai parlé des mois sacrés, hein, dans la société bédouine, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez. Capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. S'ils se repentent, s'ils s'acquittent de la prière musulmane bien sûr, s'ils font l'aumône musulmane, laissez-les libres. Voilà. Donc ce verset combat ceux qui refusent l'islam et il abroge le pas de contrainte en religion. C'est une interprétation très répandue, mais que contestent les nouveaux penseurs de l'islam, dont j'ai parlé hier, qui eux voudraient qu'il y ait la liberté totale. Alors il y a un autre fondement à cette question de la liberté de conscience, c'est une parole attribuée à Mahomet. Mahomet aurait dit « Celui qui quitte la religion, donc l'islam, tuez-le ». Alors le Coran ne prévoit aucune peine pour le musulman qui quitte l'islam, sauf l'enfer, bien entendu, mais aucune peine temporelle. Alors par contre, la phrase attribuée à Mahomet sert à justifier, dans certaines législations, mais pas partout bien sûr, la peine de mort pour celui qui est considéré comme coupable d'un crime qui a un nom particulier. Ce crime, c'est la RIDA, R-I-2-D-A. Le mot signifie à la fois apostasier la foi et trahir la communauté. C'est équivalent. Et donc, voilà. Voilà pourquoi, dans certains pays musulmans, eh bien, la loi inflige ce genre de châtiment à celui qui quitte l'islam. Alors, ailleurs, même si ce n'est pas inscrit, connaissez l'histoire de Joseph Fadel, eh bien, la famille, les proches, se sentent le devoir de punir celui qui est coupable du crime de la RIDA. Donc, soit en l'excluant de la société, il perd son travail, il est rejeté par sa famille, soit parfois même en exerçant des violences contre lui, ou même en le tuant au nom de la parole de Mahomet.